Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. Le dossier du jour est consacré aux enfants que les psys disent hypersensibles. Un trouble qui peut s'exprimer de façon très différente. Pour certains enfants hypersensibles, la vie semble être un drame permanent. Ils échafaudent des scénarios tragiques à partir du moindre incident. D'autres se replient sur eux-mêmes et s'isolent. D'autres encore expriment colère, tristesse ou joie de façon disproportionnée. Face à ces comportements déroutants, l'entourage ne sait pas toujours comment réagir. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Emmanuel Rigon, en duplex depuis France Bleu, Champagne-Ardenne. Bonjour Emmanuel Rigon.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute et vous avez publié « Les enfants hypersensibles » aux éditions Albin Michel. Également avec nous, Saverio Tomasella. Bonjour.
Bonjour.
Psychanalyste et auteur de « Hypersensible, trop sensible pour être heureux ?» point d'interrogation aux éditions Erol. Nous allons voir donc avec vous ce qu'est l'hypersensibilité exactement, tenter de comprendre quelles peuvent en être les causes et puis comment accompagner un enfant hypersensible, faire en sorte que son hypersensibilité soit plus un atout qu'un handicap. Nous sommes en direct et les auditeurs peuvent vous adresser leurs questions via la page de l'émission sur franceinter.fr. Aujourd'hui sort dans les salles le film documentaire La glace et le ciel. Et c'est à la une de la science aujourd'hui. Bonjour Axel Villard.
Bonjour Daniel. Oui, après un Oscar en 2006 avec La marche de l'empereur, le réalisateur Luc Jacquet nous emmène à nouveau sur la glace, mais cette fois aux côtés d'un grand climatologue. Il est notre invité aujourd'hui pour la une avec vos questions sur les réseaux.
Voilà pour le programme de cette Tête au Carré, réalisé par Stéphanie Texier et préparé par Emmanuel Fournier.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
Emmanuel Rigon et Saverio Tomasella, ce qui frappe en lisant vos ouvrages respectifs, c'est que l'hypersensibilité peut revêtir de nombreuses formes et être à l'origine de comportements radicalement opposés. Ça va du comportement très théâtral à l'introversion extrême. Emmanuel Rigon, c'est vraiment une palette très très vaste.
Oui, c'est vrai que c'est assez méconnu de ce point de vue-là, parce qu'on imagine toujours que l'hypersensible, c'est quelqu'un qui pleure pour un rien. Et la recherche clinique a permis d'évaluer, au contraire, qu'il y avait effectivement plusieurs dominantes et qu'on retrouve des enfants hypersensibles avec des couleurs, si je puis dire, assez variables.
C'est dans tous les cas la cause de souffrance pour l'enfant et puis pour son entourage, où ça peut bien se passer d'être hypersensible?
Ah ben, d'être sensible, ça se passe bien. D'être hypersensible par définition, enfin celle qu'on a posée en tout cas, c'est effectivement trop. Et trop, ça fait souffrir, ça rend compliqué les relations avec les autres et ça rend difficile la vie.
Saverio Tomasella, on est hypersensible ou on le devient avec les expériences et ce qui nous arrive dans la vie?
On devient hypersensible à partir effectivement de ce que... Enfin, l'enfant devient hypersensible à partir de ce qu'il vit.
Oui, c'est-à-dire que on ne note pas de bébé particulièrement hypersensible.
Le bébé peut être hypersensible parce qu'il a déjà toute une histoire dans l'utérus de sa mère, donc cette vie intra-utérine peut l'avoir déjà façonnée d'une certaine façon.
Emmanuel Rigon et Saverio Tomasella sont les invités de cette Tête au Carré consacrée aux enfants hypersensibles. Pour leur adresser vos questions, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Aujourd'hui, sorti dans les salles de cinéma du dernier film de Luc Jacquet, La glace et le ciel.
En 1984, nous mettons sur pied une mission extraordinaire. Nous recueillons des fragments de temps mètre après mètre. L'analyse des cristaux nous prouve que nous avons pénétré dans les glaces de l'ère glaciaire. Ces travaux me vaudront les honneurs internationaux et mes blessures les plus profondes.
Les prévisions catastrophiques sur le réchauffement de l'atmosphère ne sont peut-être pas ce qu'on nous a dit que c'était.
Mais vous êtes justement de ces hommes qui raisonnent sur le court terme.
À 82 ans, je suis aujourd'hui un vieil homme qui constate que l'histoire lui a donné raison.
Bonjour, Luc Jacquet.
Bonjour.
Votre film retrace le parcours d'un homme, d'un scientifique aventurier, Claude Lorius, dont l'histoire personnelle va rencontrer notre histoire collective à tous. Sa découverte marquera à jamais l'histoire de l'humanité. Qui est Claude Lorius?
Claude Lorius, c'est un des plus grands scientifiques du XXe siècle. C'est lui qui, le premier, a décrit effectivement l'impact de l'activité humaine sur le bouleversement climatique. Il a découvert ça dans les glaces de l'Antarctique en analysant ces petites bulles qui sont capturé dans les dans le manteau neigeux, puis dans les glaces profondes.
C'est vraiment une grande histoire d'amour entre cet homme et ce continent blanc. Il part pour la première fois à quel âge en Antarctique?
Il part à 23 ans en 1956, dans des conditions absolument incroyables. On ne connaît encore quasiment rien de l'Antarctique. C'est d'ailleurs amusant de noter qu'il part pour essayer de comprendre pourquoi il fait froid en Antarctique. Ça peut faire sourire aujourd'hui, mais il fallait commencer par là.
Il y a un lien entre votre parcours personnel à vous, Luc Jacquet, et le parcours de cet homme, même si vous êtes cinéaste, réalisateur, notamment un Oscar pour la Marche de l'Empereur, mais tous deux, vous avez découvert l'Antarctique à peu près au même âge, et tous deux, vous avez été transformés par ce lieu.
Oui, c'est peut-être pas pour rien qu'on s'est entendu à ce point-là et qu'on a fait un film ensemble. Moi, j'ai, tout comme Claude, découvert ma vocation de cinéaste, lui de scientifique en Antarctique. Et on est tous les deux partis pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire qu'on est plutôt partis pour l'aventure et puis pour aller voir comment ça fait là-bas, quoi.
Et petit à petit, dans son cas, c'est vraiment le goût de la découverte. Vous dites, vous employez cette très belle expression dans le film, éprouver encore et encore le frisson de la découverte. Il s'est vraiment pris de passion pour les découvertes qu'il pouvait faire là-bas.
Oui, Hervé Le Treut m'a fait un très beau compliment. Il m'a dit, t'as fait un film sur la pulsion scientifique. Ouais. Et je crois que c'est vraiment ça, cette passion de savoir, ce frémissement, cette vibration qui vous donne envie d'aller plus loin et de mettre en place des choses parfois très complexes pour arriver à comprendre. Et c'est sûr que ce film est d'abord un hommage à la science. Ouais.
Et cette pulsion de la découverte va l'emmener évidemment beaucoup plus loin qu'il ne pouvait l'imaginer, puisqu'il y a cette découverte qu'il fait presque par hasard autour d'un verre de whisky.
Épisode célèbre, c'est la pomme de Newton, c'est la baignoire d'Archimède. Effectivement, Claude, un jour, a mis un morceau de carotte de glace dans un verre de whisky. Comme la glace est très très pressée, du gaz est sorti de ce glaçon. Et c'est en voyant ces bulles qu'il s'est posé la question, mais finalement, d'où viennent-elles? Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Mais je trouve ça intéressant dans le sens où, à un moment donné, un chercheur est prêt à voir quelque chose. Et ça peut être un tout petit événement comme ça qui déclenche finalement une recherche qui va donner les résultats qu'on connaît aujourd'hui, à savoir documenter le bouleversement climatique.
Ça, d'où venaient-elles alors ces bulles? Qu'est-ce qu'elles représentaient, ces petites bulles qui étaient à l'intérieur de son glaçon dans son whisky?
Alors, ce qui se passe, c'est quand la neige tombe en Antarctique, elle emprisonne de l'air et cet air est parfaitement conservé. Et la glace va s'enfoncer petit à petit dans le manteau jusqu'à aller sur le socle antarctique. Et donc ces bulles d'air sont des véritables archives du climat. Encore fallait-il le prouver, encore fallait-il être capable d'analyser ces micro-bulles. Et c'est vraiment tout le travail qu'a fait Claude et ses équipes pendant des dizaines d'années.
Oui, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir l'idée, il va falloir en avoir la certitude. Et puis ensuite il va falloir convaincre. Et c'est aussi tout ce que raconte votre film, entre le moment où on découvre et puis on est un peu un pionnier. Il faut alerter à la fois les décideurs, l'opinion publique.
C'est ce qui est troublant dans la vie de Claude, c'est-à-dire ce qu'on répète à l'envi aujourd'hui. Lui, ça fait 30 ans qu'il le dit, mais il l'a dit à un moment donné où le progrès faisait foi et on n'avait pas spécialement envie d'entendre ça. Parce que qu'est-ce que nous dit Claude? Il nous dit, on a une activité qui est prouvée sur la marche de la machine climatique et il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on prenne garde. Et évidemment, ça empêche à tourner en rond parce que c'est le petit bonhomme tout seul qui se met devant les chars, quoi, qui dit, non, ça ne passe pas, on ne peut pas passer comme ça. Ouais. Quoi.
Alors, aujourd'hui, Claude Lorius est un scientifique reconnu, hein, mais vous lui faites dire quand même des choses assez amères, hein, dans votre film. Que vaut la reconnaissance quand on n'a pas été entendu? Je lutte contre le sentiment de n'avoir servi à rien.
Je trouve qu'il y a ces deux sentiments chez Claude. Il y a à la fois effectivement ce fond d'amertume, puisqu'il a été aussi obligé de lutter pied à pied contre les climato-sceptiques, qui avaient de très mauvaises raisons de contester ces découvertes. Et de l'autre, cet optimisme fondé sur un humanisme incroyable. Et je sens qu'il est toujours partagé entre ces deux sentiments, bien qu'au fond, j'ai le sentiment que finalement, c'est quelque chose de positif qui domine.
Axel Villard.
Dans cette lutte-là contre les climato-sceptiques, souvent les scientifiques ont eu des messages catastrophistes, qui sont en train d'être abandonnés petit à petit pour des discours plus porteurs d'espoir et tournés vers l'humain. Vous inscrivez votre film dans cette lignée-là?
Moi, ça fait 5 ans que je suis dans cette lignée-là avec tout le travail que je fais avec White Hot. Je pense que
c'est donc votre association et votre association, boîte de production.
Voilà, je pense qu'on fait beaucoup de pédagogie à l'environnement. C'est pas en désespérant les gens qu'on les amène à changer de situation. Je pense qu'aujourd'hui, il faut mobiliser, il faut motiver comme n'importe quel chef d'équipe, comme n'importe quel capitaine. Et il faut dire aux gens, non, évidemment, notre monde va changer, mais il faut qu'on prenne ça de manière extrêmement positive.
Et là, votre film sort à 2 mois de la conférence de Paris, la COP21. Vous avez des espoirs particuliers personnellement par rapport à ce rendez-vous?
Je pense que j'ai l'espoir que peuvent avoir tous les êtres humains sur cette planète. C'est-à-dire que on a bien compris qu'on pouvait pas continuer comme ça, mais on a aussi compris qu'à titre individuel, il était très compliqué d'agir. Et on a besoin de gens qui administrent le bien commun, qui sont les hommes et les femmes politiques, et j'espère qu'ils sauront se montrer à la hauteur, finalement, du moment historique qui les attend là.
Vous allez y participer d'une certaine façon, vous, à ce rendez-vous ?
Donc moi, je repars en Antarctique la semaine prochaine, puisque
c'est-à-dire
je vais
que
mobiliser...
Vous serez là-bas pendant la COP21 ?
Absolument, ouais. Je vais en Terre Adélie, puis c'est les 10 ans de la marche de l'Empereur, c'est aussi de là qu'est venue l'alerte climatique, avec deux photographes, Vincent Munier et Laurent Balesta. On va envoyer une photo par jour, qu'on projettera sur un grand monument de Paris, pendant la COP21, pour dire que là-bas aussi, il se passe des choses. Il pleut en Antarctique depuis très peu de temps. Ça a des conséquences absolument catastrophiques sur les populations animales là-bas. Moi, je veux absolument qu'on arrive à se mobiliser. Je sais que le manchot empereur est une icône, est aussi un patrimoine commun de notre humanité. Je veux qu'on se mobilise aussi autour de ces questions.
Alors, c'est un très beau film. Hein. C'est un film utile. Je le recommande vraiment vivement à nos auditeurs et puis aux plus jeunes. J'espère que les enseignants qui ne savent peut-être pas comment aborder cette question du réchauffement climatique, c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment, on s'affole autour de cette COP21. C'est une bonne façon d'aborder la question, de discuter. C'est aussi un film que vous faites pour les générations futures. C'est un peu un film testamentaire aussi.
Oui, moi je m'inscris effectivement dans une démarche patrimoniale avec ce film. On a aussi beaucoup travaillé avec les enseignants, les chercheurs, pour produire de la connaissance sur le web, une connaissance qui soit intéressante, interactive, passionnante. Donc allez voir sur le site education-laglace-et-le-ciel.com. Vous allez voir, il y a plein de choses à apprendre et vous allez voir aussi qu'on peut raconter des très belles histoires avec la science.
Merci Luc Jacquet, on souhaite vraiment à La Glace et le Ciel le succès qu'il mérite. Merci Axel Villard.
À demain Daniel.
À demain.
Merci.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, et si l'avenir de la collaboration spatiale internationale était la construction d'un village lunaire? C'est ce qu'a laissé entendre le nouveau directeur de l'ESA, l'agence spatiale européenne, Johann Dietrich Vollmer, lors du 66e congrès international d'astronomie ce week-end à Jérusalem. L'idée est sur la table, a-t-il déclaré à l'AFP. Il faudra commencer par une étape robotique, puis ensuite une étape de station habitée. La belle aventure de la station spatiale internationale se terminera certainement d'ici 2024 et la suite des collaborations pourrait donc se faire sur la Lune. Plus loin dans l'univers, cette étude de la NASA sur les planètes jumelles de la Terre, selon une estimation théorique basée sur les observations des télescopes Hubble et Kepler, la Terre ferait partie des toutes premières planètes pouvant abriter la vie à s'être formée dans l'univers. Elle ferait partie des 8% de planètes habitables formées il y a 4,5 milliards d'années, des résultats qui devraient permettre d'affiner les calculs de probabilité concernant l'existence de civilisations extraterrestres évoluées. Et pour finir, un cas unique associant sudoku et crise d'épilepsie. Il s'agit d'une étude menée par des chercheurs américains. Après un accident qui a privé son cerveau d'oxygène pendant plusieurs minutes, un jeune américain a développé des réactions bien particulières au sudoku. Les fameux casse-têtes mathématiques déclenchent chez lui presque systématiquement des tremblements dans les bras, rappelant ceux provoqués par les crises d'épilepsie. Après investigation par imagerie cérébrale, les chercheurs supposent que des fibres qui cloisonnent les différentes aires de son cerveau ont pu être abîmées. Ainsi, l'activité intense liée à la résolution des sudoku se propage à d'autres aires alentour, notamment celles qui contrôlent les mouvements du bras. Ce cas clinique très particulier ne doit pas vous inquiéter. Les sudoku restent totalement inoffensifs pour tout le reste de la population. Dans un instant, nous nous intéresserons aux enfants hypersensibles. De quelle manière peut se manifester l'hypersensibilité chez un enfant ou un adolescent? Quelles sont les causes? Comment accompagner ces enfants? Nos invités, la psychothérapeute Emmanuelle Rigon et le psychanalyste Savero Tomasella, attendent vos questions. C'était Isia, autour de toi, dans La Tête au Carré sur France Inter.
La Tête au Carré, les mercredis psy et philo, avec Daniel Fievé sur France Inter.
On s'intéresse aux enfants hypersensibles en compagnie de la psychothérapeute Emmanuelle Rigon et du psychanalyste Saverio Tomasella dans cette Tête au Carré. Emmanuelle Rigon, l'hypersensibilité, c'est une maladie, c'est une pathologie, c'est un trait de caractère? Comment vous définiriez ça?
Alors non, c'est pas une maladie. Hein. Je dirais que c'est une manière d'être à la vie. Hein. C'est une réaction, c'est un mode de réponse. C'est plus quelque chose qui serait du côté d'un trouble, mais on n'est pas dans la psychopathologie.
Et quelle différence y a-t-il, s'il y en a une, entre hypersensibilité et hyperémotivité?
Alors, les deux sont bien sûr très liés. L'hyperémotivité va être plus spécifique. Disons que l'hypersensibilité va pouvoir se traduire autrement que par un déluge émotionnel, donc par exemple par le retrait, par l'idée qu'on est persécuté, qu'on nous en veut, des choses comme ça qui vont pas forcément se traduire par un afflux émotionnel majeur que l'on retrouverait dans l'hyperémotivité. Disons que l'hyperémotivité, c'est une partie de l'hypersensibilité possible.
Alors je vous propose d'écouter le témoignage d'une maman, c'était dans l'émission Les Maternelles sur France 5, témoignage de la maman de Lilou, 3 ans et demi.
Eh bien en fait, Lilou réagit de façon très excessive. Une bonne nouvelle, elle va sauter partout, elle va avoir des cris un peu stridents. Et une mauvaise nouvelle, à l'inverse, va la rendre très malheureuse, même si ça ne la touche pas directement. Une pub à la télé ou une chanson mélancolique, même avec des paroles en anglais qu'elle ne comprend pas, va la rendre triste. On s'est aperçu qu'elle réagissait comme une éponge.
Emmanuelle Rigon, c'est quand même étonnant. Hein. À 3 ans et demi, cette fillette qui s'émeut de chansons dont elle ne comprend même pas les paroles. Il y a une dimension empathique à l'extrême chez ces enfants.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, il y a un vécu qui est absolument sans filtre du point de vue du ressenti. Donc, ces enfants sont extrêmement ouverts à tout ce qui leur arrive. Hein, parfois décrits après, quand ils sont plus grands, comme un bombardement. Hein, c'est-à-dire que dès qu'ils sont dans la vie, ils sont bombardés par toute une série d'informations, d'émotions, de musique et en particulier très sensibles au bruit. Donc, ça ne m'étonne pas du tout parce que les tout petits très vite sont pris. Hein, la musique est quelque chose qui est extrêmement pénétrant et du coup une musique triste chez un hypersensible, effectivement, c'est assez marquant.
Donc c'est une hypersensibilité pas seulement émotionnelle mais aussi dans notre façon de percevoir le monde.
Voilà, c'est une manière, c'est ce que je disais tout à l'heure, une manière d'être à la vie, c'est-à-dire vraiment, c'est une façon d'être, je dirais, cette hypersensibilité. Bien sûr, tout le monde est sensible, les enfants, bien sûr, sont très sensibles, mais là, on est dans quelque chose où on est presque à vif, hein, l'enfant est à vif, c'est-à-dire le bon comme le mauvais va avoir des répercussions assez impressionnantes parfois, et les parents sont parfois tout à fait déconcertés par l'ampleur des manifestations réalisées par l'enfant.
Saverio Tomasella, vous évoquez dans votre livre les mille et une facettes de l'hypersensibilité. Il n'y a donc pas une seule façon d'être hypersensible et d'exprimer cette hypersensibilité.
Oui, tout à fait. Chaque enfant va vivre sa sensibilité de façon très différente. Et quand l'enfant est particulièrement sensible, ça va se manifester de façon très différentes. Ça peut être un enfant qui va être très timide, très réservé ou au contraire très expressif et qui va théâtraliser sa façon d'être. Ça peut être un enfant qui va avoir beaucoup d'émotions ou au contraire un enfant qui n'arrivera pas à exprimer ses émotions. Il y a énormément de façons différentes de vivre cette grande sensibilité.
Ce qui paraît du coup parfois un peu contradictoire et contre-intuitif, c'est-à-dire que devant un enfant qui paraît presque insensible, hein, presque ne réagissant pas au monde qui l'entoure, ça peut être une preuve, enfin une, on va dire une manifestation de son hypersensibilité.
Oui, parce que l'enfant qui est très sensible, à partir d'un certain moment, si par exemple il n'a pas été accueilli dans sa façon d'exprimer ses malaises, ses troubles, va se dire je ne vais plus pouvoir exprimer. Enfin, il se le dit pas consciemment, hein, oui. Mais il va choisir de ne plus exprimer cette grande sensibilité. Donc, il y a aussi des enfants qui se referment sur eux-mêmes.
Oui. Emmanuel Régon, vous signalez aussi des cas comme ça dans votre livre. Je ne sais pas si c'est des jeunes patients que vous avez eu en consultation directement ou si ce sont des cas qui sont connus dans le monde des psys. Mais vous parlez d'enfants comme ça très renfermés sur eux-mêmes, qui en fait ont eu une phase hypersensible, émotive, et puis qui se sont voilà, un peu cadenassés.
Oui, alors ce que j'explique dans mon livre, c'est je suis partie sur l'idée qu'il y avait des dominantes à l'hypersensibilité, donc qui peuvent se combiner ou qui peuvent se succéder. C'est-à-dire que effectivement, un enfant va exprimer son hypersensibilité selon un certain canal, par exemple de la très grande émotivité. Mais si cette expression est reçue de manière très défavorable dans l'entourage ou s'il sent que ça crée beaucoup de problèmes, il peut à ce moment-là choisir toujours. Pareil, pas forcément et bien sûr consciemment, il peut choisir une autre manière de l'extérioriser dans des familles où on parle pas beaucoup, où c'est assez mal vu de faire des grandes crises. On peut avoir deux sortes de réactions, soit l'enfant qui s'en fiche et qui choisit au contraire de faire des grandes crises très théâtrales, ou au contraire un enfant qui va un petit peu suivre le mouvement commun et qui va plutôt être dans le retrait, ce qui ne veut pas dire que son hypersensibilité a disparu. Mmh. Et les cas effectivement que je développe sont pas des cas, ce sont des cas personnels que j'ai rencontrés dans ma pratique.
Oui, alors il y a, en fait vous dégagez cinq façons, même si comme vous le dites, elles se combinent souvent, mais vous dégagez cinq grandes façons d'être hypersensible. Il y a l'anxieux qui évidemment angoisse pour un rien et qui va peut-être aussi avoir tendance à créer des scénarios infernaux à partir de pas grand-chose. Hein. On a le cas d'un jeune enfant, je crois, qui est tout jeune et qui s'inquiète pour le bac de son frère, mais qui du coup envisage même le suicide de sa mère au cas où son frère échouerait au bac, alors qu'évidemment il n'en est pas question.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que évidemment, tous les anxieux sont pas des hypersensibles. Alors les hypersensibles anxieux, c'est vraiment un imaginaire galopant avec un enchaînement de conséquences dramatiques. Hein. Ça donnera peut-être de futurs excellents scénaristes pour la télévision. Voilà, c'est l'ampleur. Si vous voulez, ça va très loin, très vite et très grave.
Oui. Voilà. C'est vrai qu'ils ont un imaginaire très développé. Hein, ces enfants, Saverio Tomasella.
Oui. Parce que cette grande sensibilité fait qu'ils reçoivent énormément d'informations, ils perçoivent énormément de choses et donc ça les pousse à développer une première approche de la pensée par rapport à leur ressenti, qui est l'imagination, bien évidemment, chez l'enfant.
Mmh. Ça peut être une source d'échec à l'école, Emmanuel Régon.
Alors oui, évidemment, parce que c'est comme vous le disiez, il y a beaucoup d'informations qui arrivent. Alors effectivement, et il y a ces filtres qui n'existent pas. Donc une information peut marquer l'enfant qui d'un seul coup va suspendre sa pensée. Hein, donc il reste bloqué sur ce qu'il vient d'entendre et il commence à imaginer, à avoir peur, à être impressionné. Et puis évidemment, il y a aussi la manière de s'exprimer qui est marquée par l'hypersensibilité. Souvent, vous le disiez, des enfants hypersensibles sont timides, ont du mal à prendre la parole en public et donc ils vont être déstabilisés facilement par une question, une remarque et les réactions des autres.
Jusqu'à se mettre en danger soi-même, j'ai noté également dans votre livre, Emmanuel Régon, ce jeune, alors là on est plus à l'adolescence, hein, ce jeune qui prend natation au bac, alors qu'il ne sait pas nager, mais il prend natation parce qu'il veut éviter la gym au sol et comme il ne veut pas décevoir, il a la pression, il plonge dans le grand bain alors qu'il ne sait pas nager sous le regard un peu médusé de ses enseignants qui croient au début qu'il fait le mariole alors qu'ensuite ils comprennent qu'il est en train de se noyer.
Voilà, et ça c'est vraiment un cas typique, alors un peu extrême, mais que totalement vrai, je peux vous l'affirmer. Peut-être se reconnaîtra-t-il s'il écoute l'émission, mais
on le salue.
Voilà, mais c'est vrai que c'est particulièrement difficile. Les hypersensibles peuvent se retrouver dans des situations vraiment terribles parce qu'ils n'ont plus accès finalement à une pensée raisonnée. Hein. Ils sont mus par leur ressenti, par leur affectif d'une manière extrême.
Oui. Pourtant, alors ça c'est aussi un peu un cas un peu différent, mais chez les hypersensibles que vous appelez les hypersensibles expressifs, presque la personnalité semble se noyer dans cette hypersensibilité, c'est-à-dire que ces enfants épousent complètement la vie des gens qui les entourent, se retrouvent même à faire des choses qui ne leur ressemblent pas du tout pour plaire à leur entourage. Enfin, la personnalité semble s'égarer complètement.
Oui, voilà, l'envie d'être dans le désir de l'autre devient primordiale parce qu'il faut absolument être aimé, il faut absolument ressentir qu'on plaît. Hein, cette sensibilité demande ça. Hein, il y a comme un besoin absolument irrépressible. Et du coup, peu importe finalement d'avoir une identité propre, d'avoir son avis, ce qui compte, c'est d'abord d'être apprécié, d'abord l'approbation des autres, et du coup, on se calque, hein. Il y a comme un collage comme ça à l'environnement familial qui fait perdre effectivement la personnalité de l'enfant.
Avec là encore des contradictions apparentes, des enfants qui se retrouvent à commettre des actes plutôt violents, plutôt durs, alors qu'ils sont hypersensibles, mais parce qu'ils ne voulaient pas déplaire à leur entourage qui les a poussés à commettre ces actes.
Voilà, on retrouve pas mal d'enfants qui sont mêlés à des bagarres, à des groupes comme ça qui sont violents avec d'autres et qui en réalité sont des enfants hypersensibles. Alors on a parfois du mal à le penser, mais c'est vrai qu'ils sont pris hein, dans cette nécessité de plaire et ils en perdent tout jugement, et ils se perdent eux-mêmes, effectivement.
Saverio Tomasella, on comprend toute la difficulté du psychanalyste, psychothérapeute qui se retrouve confronté à ce type d'enfant, et puis avec votre livre qui est plutôt consacré aux adultes, c'est aussi un trouble qui existe chez les adultes, de déceler l'hypersensibilité tant elle peut revêtir de formes si diverses.
Oui, c'est vrai, et en même temps très tôt dans les thérapies de ces enfants ou de ces adolescents, très tôt tout de même ils vont exprimer leur difficulté à vivre avec leur sensibilité quand ils sont seuls face à eux-mêmes ou quand ils sont dans des situations de groupe. À partir d'un certain moment, ils vont se livrer sur leur difficulté à vivre leur sensibilité.
D'accord. Donc c'est plutôt dans le rapport, la discussion en tête à tête que, en grattant un peu, l'hypersensibilité se découvre.
Oui, parce que quand la relation de confiance se met en place, l'enfant sait qu'il va pouvoir à un moment se confier sur cette sensibilité.
Alors d'où vient l'hypersensibilité de ces enfants? Comment se comporter face à elle? La discussion se poursuit avec nos invités dans un instant. Pour adresser vos questions à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr.
Thank you.
C'était The Cure, The Love Cat, dans la tête au carré sur France Inter.
Nat. Ah.
Quand vous aurez fini, vous m'en ferez une aussi, hein, Léon?
Mais c'est pas comme ça! Tu me dis que tu sais, puis tu sais pas! Je suis sûre que c'est pas comme ça! C'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison! On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau! Je me demande comment vous pouvez vivre ici! Tout est moche ici, tout est petit! C'est petit, c'est moche, c'est tout! Salut!
Voilà, c'est dit. C'était un extrait du film L'Effronté de Claude Miller, sorti en 1985 avec une Charlotte Gainsbourg à fleur de peau, comme le sont les enfants hypersensibles dont nous parlons aujourd'hui dans La Tête au Carré. Emmanuelle Rigon, psychologue clinicienne, psychothérapeute, auteur de Les enfants hypersensibles aux éditions Albin Michel, et Saverio Tomasella, psychanalyste et auteur de Hypersensible, trop sensible pour être heureux aux éditions Erol. Tous deux sont nos invités. Emmanuelle Rigon, est-ce que l'hypersensibilité concerne autant les filles que les garçons?
Ah oui, c'est vrai que ça faisait partie des idées reçues sur lesquelles j'avais envie de travailler, parce que c'est vrai que c'était plutôt attribué aux filles, l'hypersensibilité, mais quand on travaille en examinant les différentes manières de s'exprimer et d'exprimer cette hypersensibilité, on se rend compte que les garçons ont des formes parfois différentes, mais je pense qu'il y a autant de filles que de garçons hypersensibles. Alors, même si socialement, c'est un petit peu mieux accepté, enfin le côté expressif, grande scène théâtrale, les larmes, tout ça, ça passe peut-être un peu mieux chez les filles.
Ce qui fait qu'on retrouvera peut-être plus de garçons dans le schéma que vous expliquiez en début d'émission, ces enfants en retrait, chez qui on ne laisse pas exprimer l'hypersensibilité et qui du coup se murent un peu dans un silence pour ne plus rien exprimer du tout.
Voilà, c'est pas mal de petits garçons effectivement sont sur ces formes-là, et puis sur les formes aussi que j'ai appelées réactives et les formes sensitives, c'est-à-dire de croire toujours qu'on lui en veut, qu'on cherche à lui nuire, que les copains sont en train d'établir des plans pour lui causer des problèmes. Donc on va aller trouver comme ça, c'est une des formes plus explosives comme ça qui passe plutôt chez les garçons.
Alors un message qu'on voit clair sur le site de l'émission: ma fille est hypersensible, elle a 5 ans et nous avons vécu des premières années très difficiles ensemble. Durant tout ce temps, je me suis demandé ce qui avait bien pu se passer pour qu'elle soit comme ça. Est-ce ma faute? Y a-t-il des prédispositions génétiques? Ma sœur, mon père et mon neveu sont hypersensibles. Saverio Tomasella.
Oui, il n'y a pas spécialement de prédisposition, il n'y a surtout pas de faute. C'est-à-dire que l'enfant devient petit à petit, développe petit à petit une sensibilité difficile à vivre, soit pour lui, soit pour l'entourage. Parfois, c'est pour l'entourage que c'est difficile à vivre, mais pas pour lui. En fonction de l'entourage. Donc, c'est pas une question de faute, mais c'est vrai que les parents, en fonction de leur façon d'être avec l'enfant, vont plus ou moins disposer leur enfant à exprimer d'une certaine façon leur peur, leurs besoins, et qui vont faire penser à l'hypersensibilité, et ça peut s'installer comme ça. Alors que dans d'autres cas, un enfant qui va pouvoir bien exprimer ses besoins, ses peurs, parce que là je parle vraiment du petit enfant qui a besoin de pouvoir exprimer ses peurs et ses besoins, dans ce cas-là, même avec une très très forte sensibilité, on ne parlera pas d'hypersensibilité.
L'aspect génétique est aussi dans cette question. Est-ce qu'il y a des prédispositions génétiques? Est-ce que si dans une famille, plusieurs membres de la même famille sont hypersensibles, c'est plus culturel, c'est plus les relations qui se sont nouées dans cette famille qui sont la cause de cette hypersensibilité commune, ou est-ce qu'il y a un fond génétique?
Alors, à part des maladies fonctionnelles avérées dans la famille, il n'y a pas de fond génétique. En revanche, il y a un fond généalogique, c'est-à-dire que la famille a une histoire, que les personnes de la famille se sont développées avec une certaine sensibilité, une certaine façon d'exprimer leur sensibilité, et que donc les enfants sont les héritiers de cette culture particulière concernant la sensibilité.
Emmanuelle Rigon, vous parlez pourtant dans votre livre de bébés hypersensibles qui fondent en larmes devant un visage un peu fermé, comme si ces enfants, alors qu'ils n'ont encore pas vécu grand-chose, ont déjà une prédisposition à l'hypersensibilité.
Alors, ils sont hypersensibles très tôt, comme le disait Saverio tout à l'heure, et ils ont déjà une histoire quand ils arrivent au monde. Alors, effectivement, la manière dont ils ont vécu la partie intra-utérine de leur vie peut effectivement donner l'impression qu'ils sont nés comme ça. Hein. C'est très difficile tout ce qui est tout ce qui touche à la génétique, parce que c'est très très impressionnant parfois pour des parents de voir que leur enfant est à ce point semblable du point de vue, par exemple, de cette hypersensibilité. Donc la tentation est grande de dire, bon, bah, ça nous a échappé complètement puisqu'il est comme ça depuis qu'il est né. On n'a rien mis en évidence. Hein. La génétique, c'est quand même un petit peu la solution de facilité qu'utilisent certains pour dire, voilà, ça vient de là. Comme ça, ça évite évidemment de se poser une quelconque question et surtout, ça évite de donner un sens à cette hypersensibilité qui pourtant est capitale.
Hélène et Corinne vous adressent des questions assez semblables sur notre site internet. Quel est le lien entre enfant hypersensible et enfant surdoué, demande-t-elle. Emmanuel Rigon, c'est une question que vous abordez dans votre livre.
Oui, alors c'est une question qui revient très souvent. Alors effectivement, on a tendance à associer les deux. Bon, moi je pense que beaucoup d'hypersensibles ont ce qu'il faut pour devenir des enfants très doués, parce qu'ils ont une pensée qui est effectivement assez rapide. On peut souvent parler pour eux de pensée en images, qui est aussi une caractéristique des gens qui ont un potentiel intellectuel très élevé. Maintenant, je pense qu'il y a quantité d'enfants qui ont un quotient intellectuel particulièrement élevé qui n'ont pas une hypersensibilité. Je crois que les deux ne se superposent pas, mais on peut retrouver les éléments concomitants chez un même enfant.
Saverio Tomasella, Damien vous demande, l'hypersensibilité affective est-elle corrélée avec une hypersensibilité physique, visuelle, auditive? On en a un peu parlé dans cette émission, une aussi tactile, gustative, l'odorat. Est-ce que les sens sont exacerbés chez les hypersensibles?
Voilà, les sens sont exaltés, ils sont exacerbés. Alors parfois c'est un seul sens, hein, comme chez les tout-petits, ça peut être surtout l'ouïe ou l'odorat. Chez les enfants plus grands, ça va être d'autres sens. Mais c'est vrai que chez la personne très sensible, par définition, le corps est aussi très sensible. Hein, donc tout ça est lié complètement.
Ouais. Vous faites un lien, Emmanuel Rigon, aussi avec des allergies, certaines allergies que l'on a du mal à soigner. Vous dites, des fois, c'est lié à un temps, en tout cas, c'est associé à un tempérament hyper sensible.
Oui, alors bon, là, moi, bien sûr, je ne suis pas médecin, je ne me permets pas de poser une affirmation en ce sens, mais je m'interroge. Je me dis, bon, il est vrai que chez certains asthmatiques, chez certains enfants qui ont des problèmes de peau, d'eczéma très très récalcitrants à tout traitement, on retrouve une hypersensibilité psychique. Donc, est-ce que on sait bien hein, que la psyché, le soma communique très étroitement, donc on peut vraiment se demander s'il n'y a pas comme ça des échanges qui seraient pour le coup dans le domaine du physique directement issu du psychique.
Dans les éléments déclencheurs, est-ce qu'il arrive que ce soit des éléments très ponctuels? Est-ce qu'un choc émotionnel, un traumatisme précis peut déclencher chez un enfant un tempérament, un comportement hypersensible?
Alors la question du traumatisme, elle est là. Hein. Bien sûr, on s'interroge au niveau de l'hypersensibilité. Alors, est-ce que tout choc entraîne évidemment une variation émotionnelle forte? Après, la question, c'est de savoir si elle s'installe comme manière durable et si l'hypersensibilité devient une manière de répondre à quoi que ce soit qui arrive dans la vie de l'enfant. Alors, souvent, cette hypersensibilité était probablement déjà là avant et on peut imaginer que si elle existe après le traumatisme, c'est sous une autre forme qui parfois est à ce moment-là plus visible. Donc on se dit, ben, c'est à cause de ça qu'il est devenu hypersensible. Donc j'irai plutôt dans cette explication-là.
Alors beaucoup de questions arrivent sur le site de l'émission La Tête au Carré sur franceinter.fr pour demander comment se comporter et comment essayer de faire que ça aille mieux quand on a ce trait de caractère, ce trouble de l'hypersensibilité. C'est ce que nous allons voir dans la dernière partie de l'émission. Nous aborderons la façon de se comporter face à un enfant hypersensible, comment l'accompagner et faire en sorte que son hypersensibilité constitue un atout plus qu'un handicap. Et nos invités répondront bien sûr aux questions qui sont arrivées.
Down by the river Nile tide. Left him there to die. One by one we tumble, one by one we fall. If I had a solution now, honey, I would fix us all. 'Cause I believe in a world where we all belong. I'm so tired of seeing every good man pride. I have seen the darkness, Lord knows I've seen the light. Don't recall the Lord saying there's a difference if you're black or white. 'Cause I believe in a world where we all belong. And I'm so tired of seeing every good man go.
C'était Prichermann, Mélodie Gardot dans La Tête au Carré sur France Inter.
Mimi, émotive.
Bonjour Mimi.
Bonjour. Alors en ce moment, je vais bien. Oui, tout va bien, tout va bien. Excusez-moi.
Oui, tout va bien. Un extrait des émotifs anonymes. Nous parlons des hypersensibles avec Emmanuelle Rigon, psychologue clinicienne, psychothérapeute, auteur des Enfants hypersensibles aux éditions Albin Michel, et Saverio Tomasella, psychanalyste et auteur de Hypersensibles, trop sensibles pour être heureux aux éditions Erol. Alors, plusieurs questions sont arrivées à votre intention. Alors, c'est Marc qui pose la question. Je suis homosexuel et très sensible depuis mon plus jeune âge. Y a-t-il un rapport entre l'hypersensibilité et l'homosexualité chez les garçons? Comment diagnostiquer l'hypersensibilité et comment s'en débrouiller? Y a-t-il des trucs, des conseils, des traitements? Ça fait beaucoup de questions pour Marc. Saverio.
Oui, alors je pense que, comme l'a dit tout à l'heure Emmanuel, tous les garçons hypersensibles ne sont pas homosexuels. Enfin, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit que les garçons exprimaient leur hypersensibilité de façon différente. Donc, je pense que ça n'a rien à voir. Donc déjà,
la première question est évacuée, voilà. Ça n'a rien à voir. Comment la diagnostiquer, demande-t-il?
Alors, le plus souvent, et c'est ça qui est très intéressant dans l'hypersensibilité, c'est que c'est la personne elle-même qui va se rendre compte, ou quand l'enfant est vraiment tout petit, son entourage, c'est la personne elle-même qui va se rendre compte d'une sensibilité particulière par rapport à ses camarades de classe. Donc, il n'y a pas de diagnostic. Il y a une découverte.
Y a-t-il des trucs, des conseils, des traitements pour un hypersensible? Alors là, dans le cas de Marc, c'est un adulte, hein, mais pour mieux vivre avec cette hypersensibilité?
Alors, il n'y a pas de traitement puisque ce n'est pas une maladie. En revanche, oui, il y a de toutes sortes de façons de mieux vivre l'hypersensibilité. La première, c'est d'en être fier. C'est d'être fier de cette très grande sensibilité qui apporte énormément de choses. On l'a vu tout à l'heure, de l'imagination, une grande capacité de perception. Et il y a aussi toutes sortes de conseils qu'on peut donner et qu'on va donner au fur et à mesure aux enfants hypersensibles ou à leurs parents.
Emmanuel Rigon, Anaïs demande « Mon fils de bientôt 7 ans est hypersensible. La moindre petite chose peut dégénérer en drame. Quand on dit pas tout de suite, il entend jamais. Une écharde le fait hurler comme s'il avait une jambe cassée. Je suis désemparé. Comment l'aider? Cette hypersensibilité lui pourrit la vie, ainsi que celle de toute la famille. » Ça ressemble beaucoup à de nombreux témoignages que l'on retrouve dans vos livres.
Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que là, je dirais, les mots ne... Bon, les mots sont bien sûr tout à fait importants à poser sur ce qui se passe, mais il y a surtout une prise en compte. Moi, je suis frappée de ce que les témoignages, là, donnent très vite. Mon enfant est hypersensible. Donc, les parents ont déjà leur idée sur la question. Après, la question qui est intéressante à se poser, c'est eux-mêmes, ils en sont où avec cette question de l'hypersensibilité? C'est ce que j'aborde dans le livre. C'est-à-dire que pour moi, il y a plusieurs manières de se comporter, mais surtout, est-on soi-même en tant que parent un hypersensible ou pas, et sur quel mode?
Et qu'est-ce que ça change alors?
Soit on est radicalement différent de son enfant, c'est-à-dire on comprend vraiment rien, c'est-à-dire on n'est pas hypersensible, on est carré, les choses, il faut que ça roule, et puis voilà, et puis c'est tout, puis qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ou alors on est pareil, c'est-à-dire on dit ah là là, il est comme moi, je me retrouve, mais on est désemparé, on est aussi malheureux que lui. Donc, ouais. Il faut déjà voir où on en est et ensuite essayer de développer, je dirais, une complémentarité. C'est-à-dire essayer d'amener l'enfant à une expérimentation de la vie qui soit un peu différente de celle qu'il a l'habitude d'utiliser. Donc, lui montrer des choses qu'il n'a pas l'habitude de voir, qu'il n'a pas l'habitude de faire, lui parler de nos expériences aussi passées, de dire comment nous, on s'est sortis de certaines choses. C'est tout à fait important d'avoir un échange avec l'enfant sur cette hypersensibilité.
Oui, vous donnez des conseils très concrets dans votre livre. Alors d'abord, ça paraît tout simple, mais discuter, amener l'enfant à relativiser, lui apprendre à temporiser, c'est-à-dire que ça paraît tout simple, mais on oublie parfois de le faire face à un enfant qu'on ne comprend pas, c'est de commencer par lui demander « Pourquoi tu es comme ça ?»
Ah ben oui, parce que l'enfant hypersensible, il peut être très très énervant. C'est l'histoire de l'écharde là, c'est intéressant parce que c'est il hurle. Alors on est angoissé et du coup on est énervé. Et puis si on est soi-même hypersensible, ça va partir dans mettons des cris, etc. Donc l'enfant va être encore plus mal. Donc c'est vrai que temporiser, de se dire bon, je sais qu'il réagit de manière un petit peu excessive, donc je me calme moi-même, je prends les choses tranquillement. Voilà, prendre les choses tranquillement. C'est un petit peu le maître mot avec les hypersensibles.
C'est vrai, vous dites aussi savoir ménager des temps calmes. On n'y pense pas, mais tout simplement, à des moments, un peu pour le trop-plein d'émotions, ça peut aussi, on peut retomber en disant, là, on se calme, on se pose, on marque une pause.
Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on est souvent pris dans des rythmes qu'on ne choisit pas, de travail, d'école, de choses comme ça, de beaucoup d'activités. La suractivité extrascolaire convient pas tant que ça aux hypersensibles. Comme on le disait, il y a l'imagination qui est très importante. Donc c'est un enfant qui peut tout à fait être bien seul, à rêver, voire à s'ennuyer un petit peu. Enfin, c'est pas un enfant qu'il faut forcément gaver d'activités parce que il sait très bien en général s'occuper tout seul. Mmh.
Pourtant, vous conseillez quelques activités, l'un et l'autre, dans vos livres, Saverio Tomasella.
Oui. Alors, juste avant les activités, l'humour aussi. Alors, c'est vrai, le temps calme, c'est important, la tranquillité. Les enfants hypersensibles ont besoin de plus de repos, généralement, que les autres, donc de respecter leur rythme et leur repos. Mais l'humour par rapport à l'écharde, si l'enfant pense qu'il va perdre sa jambe, c'est d'en rigoler avec lui, c'est d'imaginer comment elle devient, ta jambe. Ah oui, je vois qu'elle devient toute bleue, oh là là, vite, appelons les pompiers. C'est-à-dire qu'on peut aussi, sur le ton de l'humour, avec beaucoup de légèreté, entrer dans une espèce de jeu avec l'enfant pour dédramatiser. Oui. Sinon, ce qui marche très très bien avec les enfants hypersensibles, c'est l'expression corporelle. C'est-à-dire que l'enfant hypersensible, il a besoin de retrouver son corps de façon sereine, de sentir qu'il habite son corps, de sentir qu'il est bien avec. Et ça peut être la danse libre, ça peut être la peinture avec les doigts, j'insiste, avec les doigts ou les mains, comme à la maternelle. Ça peut être modeler de la pâte à modeler ou de la terre, ça peut être jardiner. Et il y a des enfants, garçons ou filles, qui aiment coudre, qui aiment tricoter, etc. C'est-à-dire des activités manuelles simples qui vont aider l'enfant à se poser quelque part et à arrêter ce brouhaha intérieur.
Alors, avec les conseils que vous donnez, on a l'impression qu'on peut finalement gérer la situation de façon sans aide extérieure. Est-ce que il faut consulter et à partir de quel moment il faut se décider à aller consulter? D'ailleurs, Véronique vous demande, je crois mon fils de 11 ans hypersensible, y a-t-il des tests pour en être sûr? Vous nous avez dit non. Et que faire s'il refuse catégoriquement de voir un psychologue? Est-ce que c'est si important d'aller voir un psychologue dans le cas des enfants hypersensibles? Emmanuel Rigon.
Écoutez, alors évidemment, quand s'il refuse catégoriquement, ça paraît compliqué de l'emmener. C'est assez rare qu'un enfant refuse catégoriquement. Je crois qu'il faut lui dire que c'est un endroit où il va pouvoir un petit peu dire ce qui l'occupe et ce qui lui pèse par moment. Et puis que nous aussi, en tant que parents, on a besoin d'aller le dire. Donc, d'accord ou pas d'accord, des fois, il faut un petit peu insuffler l'envie d'y aller. Alors, la consultation psy, elle est intéressante quand on s'en sort plus et quand on, je dirais, avant que l'engrenage ne soit trop important et ça peut surtout se dénouer finalement assez vite puisque au départ on est bien d'accord sur le fait que ce n'est pas une pathologie. Oui. Donc une consultation thérapeutique ne veut pas dire après rentrer dans un cycle de psychothérapie pendant 2 ans. Il peut s'agir de quelques consultations qui permettent à tout le monde de se poser, de se parler et de se considérer différemment face à une autre personne.
Oui. Saverio Tomasella, d'ailleurs l'un et l'autre dans votre livre, il y a quand même une lueur d'espoir, même plus que ça, un regard franchement positif en disant si on le prend bien, si on apprend à le gérer, ça peut être une force, cette hypersensibilité.
Oui, la très grande sensibilité est une grande force pour peu qu'elle soit accueillie par l'entourage et par l'enfant lui-même et l'adolescent pour développer des capacités qui sont des capacités qui vont lui permettre de s'affirmer au collège, enfin à l'école, au collège, au lycée, puis plus tard dans un métier particulier, d'affirmer son originalité et d'être fier de cette sensibilité plutôt que de croire que c'est un problème.
Merci Emmanuel Rigon et Saverio Tomasella. Je rappelle les titres de vos ouvrages respectifs. Emmanuel Rigon, Les enfants hypersensibles aux éditions Albin Michel. Saverio Tomasella, Hypersensible, trop sensible pour être heureux, point d'interrogation, aux éditions Erol. Le deuxième ouvrage étant plus consacré aux adultes et le premier aux enfants.